Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, je vous propose que nous fassions notre méditation. Nous allons prendre un texte dans l'évangile de Luc, s'il vous plaît. Alors, on a chanté des cantiques qui nous parlent d'élévation, élévation de nos cœurs, de nos âmes, de notre vie. Alors, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, et à partir du verset 27, nous allons parcourir quelques lignes, et j'y apporterai naturellement un commentaire. Luc 9, 27, c'est Jésus qui parle. Il s'adresse à ses disciples et il dit ceci: « Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. » Et je poursuis. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici, deux hommes s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il l'allait accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence, et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là de ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus. Et voici, au milieu de la foule, un homme s'écria: « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon unique fils. » Un esprit le saisit, et aussitôt il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui après l'avoir tout brisé. J'ai prié tes disciples, mais ils n'ont pas pu. » Voilà. Pour cette situation, donc, qui est intéressante à plusieurs égards, parce que ce texte, en effet, nous donne plusieurs raisons d'aborder le sujet, et certainement de réfléchir à ce que peut signifier ce qui a été communément appelé la transfiguration. Alors peut-être que nous avons une idée très vague, parce que c'est quand même un texte assez difficile d'abord, d'approche, la transfiguration. On connaît la défiguration de Jésus à la croix, son visage, c'est ce que nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 53, mais la transfiguration, c'est un sujet que, quelquefois, rarement abordé en Église. Et moi, je voudrais vous en parler ce matin parce que j'aimerais le lier. Alors, non pas tradition oblige avec la Pentecôte, vous savez que c'est la Pentecôte aujourd'hui, mais je pense qu'il y a quelque chose qui, peut nous parler et nous amener à réfléchir sur non seulement cet événement, mais aussi cet événement de ce qui s'est passé après la mort de Jésus, la résurrection et son ascension, puisque nous avons tout ça réuni, finalement, dans le même texte. Alors, intéressant à plusieurs égards, parce que c'est un but, ça a été consigné dans l'évangile pour une bonne raison. C'est pas pour faire bien, c'est pas pour meubler l'évangile, c'est pas pour faire une page de plus, mais c'est tout simplement pour nous enseigner, nous les chrétiens, de ce qu'il y a quelque chose de tout à fait particulier pour chacun d'entre nous, et c'est notre espérance suprême, la transfiguration. Et nous nous apercevons que les disciples ont entendu, ont vu plutôt, les trois, parce qu'ils n'étaient pas tous là, ont vu quelque chose qui ouvre, eh bien, nous pourrions dire l'univers spirituel dans le ciel. Et permettez-moi de vous parler un petit peu du ciel ce matin. On parle beaucoup de la terre, avec ses chaos, avec ses souffrances, avec ses drames. Et tous les jours, lorsque nous écoutons et nous voyons autour de nous, nous apercevons que, eh bien, il doit bien y avoir un autre monde autre que celui-ci, hein, probablement. Et je pense que nous avons besoin vraiment de porter nos regards et d'avoir au fond de notre cœur un espoir, une espérance. Et le but, donc, est une préparation de Jésus à travers cette vision, à travers cette ascension sur la haute montagne, et ainsi de leur dire, mais attendez, la mort. La mort, pour quelqu'un qui n'est pas sauvé, c'est terrible. Parce que c'est une vie qui n'a pas abouti. C'est une vie qui n'a pas trouvé son sens. C'est une vie qui n'a pas atteint son but, qui n'a pas réalisé le plan de Dieu. Mais pour nous, c'est tout à fait différent. Pour nous, c'est autre chose. C'est que nous avons une vie terrestre. Nous avons une vie psychologique, morale. Mais nous avons aussi une vie spirituelle. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Et il ne faut pas se laisser engloutir ou submerger, faire naufrage par rapport à tout ce qui se passe autour de nous. Donc le but de Jésus, en emmenant ses trois camarades, ses trois disciples sur la montagne, ayant vu ce qu'ils ont en vue, entendu ce qu'ils ont entendu, n'en parlant pas tout de suite, parce que vous avez remarqué la fin du texte, ils n'ont pas dit grand-chose, mais on va revenir sur tout ça. Nous apercevons que ce texte de la transfiguration, ces quelques lignes que nous avons prises ensemble, que nous avons finalement lues, eh bien, c'est un but de préparatoire, parce que ce texte de la transfiguration se situe entre deux déclarations capitales de Jésus, que je voudrais relire toujours dans le chapitre 9. Vous n'y avez peut-être pas fait attention dans vos lectures précédentes, mais permettez-moi de lire dans le chapitre 9, le verset 22. Jésus ajouta qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, et qu'il soit mis à mort, et qu'il ressuscite le troisième jour. Une mise à mort, mais qu'il ressuscite. Ça, c'est le premier texte qui précède la transfiguration. Le deuxième texte qui fait suite à la transfiguration, verset 44. Il dira à ses disciples, « Pour vous, écoutez bien ceci, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. » Et il nous a dit, à ce moment-là, les disciples ne comprirent pas ce qu'il voulait dire. Et pourtant, ils venaient de faire une expérience formidable de ce que la mort est anéantie, de ce que la mort n'est pas une fin, mais c'est une introduction dans une nouvelle dimension spirituelle, heureuse, que l'on appelle dans la Bible, eh bien, la félicité. Jésus nous parle de ses souffrances avant et après cette histoire de la transfiguration. Il nous parle de son sacrifice, et c'est une vision d'encouragement d'une destination glorieuse. Est-ce que nous croyons, nous en tant que chrétiens, que nous avons une destination glorieuse? Il faut se réveiller, mes frères et sœurs. Il faut se réveiller. Parce que je pense que nous avons besoin d'être enseignés dans cette dimension, surtout à l'époque dans laquelle on est. Ouais, c'est une nécessité. Et le réveil ne peut venir que par l'esprit. Je le rappelle à dessein aujourd'hui, c'est le jour de la Pentecôte, traditionnellement. Mais ça peu importe que ça soit une tradition. Nous, ça ne nous dérange pas. Mais ça ne nous motive pas plus que cela. C'est pas parce que c'est marqué dans le calendrier que c'est quelque chose d'important. C'est parce que nous le vivons au fond de notre cœur. Donc vous avez remarqué, la transfiguration va avoir lieu. Une première annonce de Jésus qui va mourir et une deuxième annonce qu'il va mourir. Et entre cela, il ouvre les cieux pour montrer à trois de ses disciples qu'il y a quelque chose d'extraordinaire et de formidable. La transfiguration, c'est un état. C'est pas un fait historique, c'est pas une histoire. C'est un état spirituel, la transfiguration. Alors, il y a un deuxième point que j'aimerais voir avec vous, c'est que non seulement Jésus annonce sa mort une fois, deux fois au milieu de la transfiguration, donc cette grande vision glorieuse et céleste, mais il y a un rappel de cheminement selon la volonté de Dieu en ce qui concerne Jésus. C'est une préfiguration d'une autre vie. Le verset 27 nous dit ces paroles, je vous l'ai lu tout à l'heure. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu. Je voudrais pas être trop compliqué, parce que quand on prend des textes comme ça, c'est pas toujours très simple. Hein? Mais le Seigneur est capable, par l'Esprit, de vous donner de comprendre ce qu'il faut comprendre. C'est pas seulement mes paroles. Et là, nous voyons que Jésus va prendre ses disciples et il va leur dire, mais moi, je voudrais vous dire que, eh bien, parmi vous, certains ne vont pas mourir qu'ils n'aient vu le royaume de Dieu apparaître. Je pense, entre autres, à Pierre, à Jean et à Jacques, dont nous allons voir finalement la situation. Voir le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est voir le Seigneur revenir? Pas tout à fait. C'est voir le royaume de Dieu s'instaurer en nous par la foi que nous avons et la grâce que Dieu nous a donnée de pouvoir croire que Jésus est véritablement ressuscité, qu'il est vivant et que le royaume de Dieu est déjà dans nos cœurs avant que de rentrer dans le royaume des cieux. Bon, je pense que c'est pas trop difficile, ça va comme ça. Hein. Préfiguration d'une autre vie. Transfiguration, c'est la vision surnaturelle de la gloire qui nous attend. Jésus, lui, nous montre le chemin. Mais il y a plus que cela. Nous, nous suivons le chemin que Jésus, dans lequel il nous a précédés. La gloire qui nous attend. Crucifixion, Jésus en parle, il va être livré entre les mains des hommes. Résurrection, la mort ne va pas le retenir. Et ensuite, ascension. Et nous en arrivons finalement à notre texte, parce que c'était déjà en quelque sorte un préambule. Ascension, ils sont montés sur une haute montagne. D'après les commentateurs, ce serait le mont Hermon. L'Hermon, la montagne dans le Liban, qui est toujours blanche, parce que c'est la seule de la région où il y a de la neige éternelle. L'Hermon. Alors on va remarquer un développement dans l'expérience des témoins, finalement, qui sont là, trois témoins, pas les 12, Pierre, Jacques et Jean. Jésus a eu, je voudrais le dire au passage, une multitude de témoins de ses souffrances, d'accord, à la croix, sur les chemins de Galilée, sur les chemins de Judée, à travers tous ces gens qui étaient autour de lui, témoins de ses souffrances. Mais vous remarquerez, il n'a eu que trois témoins de sa gloire lorsqu'il était sur terre. Trois seulement. Et c'est important de le signaler. Nous allons prendre sept témoigner au milieu, Père éternel, de tous ces gens qui gisent dans la vallée et qui sont dans les ténèbres, qui sont tenus par l'adversaire, qui sont tenus, Seigneur, par le péché, par le mal, pour que réellement ils entendent le message de grâce, le message d'amour de ce Dieu merveilleux. Et nous voulons te rendre grâce et te bénir, Seigneur, de ce que ces hommes d'hier, et le texte nous revient, ils virent la grandeur de Dieu. Dieu est grand, Dieu est tout-puissant, Dieu est merveilleux, Dieu est encore capable aujourd'hui de faire des choses extraordinaires. Mais Seigneur, dans le nom de Jésus, délivre-nous de nous-mêmes, vide-nous de nous-mêmes, fais-nous entrer dans la nuée, Seigneur, s'il te plaît, pour que nous puissions en ressortir avec une nouvelle vision, mais remplie du Saint-Esprit. La nuée qui a rempli la maison de l'Éternel à Jérusalem, du temps de Salomon, permet, Père éternel, que cette maison soit remplie de ta nuée, Seigneur, ce matin, et que chacun de nos corps, de nos cœurs, de nos âmes, nous soyons remplis de cette nuée divine, au nom de Jésus. Et nous savons, Seigneur, que dans la nuée, il y a toujours le signe de la présence de Dieu, la signe de l'Esprit de Dieu. Merci, mon Sauveur. Merci, Jésus. Amen. Amen. C'est dangereux, tout ça. Parce que quelque part, qu'est-ce qui restera dans notre vie spirituelle? Et je crois que il faut prendre en compte que nous avons besoin d'aspirer. Ouais, aspirer. De désirer. De soupirer après les choses d'en haut. Et la montagne, vous l'avez remarqué, hein, parce que vous êtes des lectures attentives de la Bible, la montagne est présentée comme l'image emblématique, tout simplement, eh bien, dans la Bible, comme la rencontre avec Dieu. Nous l'avons chanté, ce vieux cantique, hein. Je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu. Je l'ai fait à dessein ce matin. Mais c'est pour nous montrer que on ne doit pas se cantonner dans la vallée, mais il faut aussi prendre un petit peu d'altitude. C'est là que l'on rencontre Dieu. On l'a exprimé naturellement. D'ailleurs, des grands hommes qui ont marqué l'histoire de la Bible, l'histoire de l'humanité biblique, Abraham, Morija, Moïse, le mont Horeb, et combien d'autres sont allés sur la montagne pour, respirer un air nouveau. Le temple de Jérusalem était sur une montagne, enfin, c'est une colline, hein. Mais c'est comme ça que les choses, hein, la montagne sainte, comme cela est écrit très souvent dans l'Ancien Testament. Alors, pour atteindre quelques sommets, et on le sait, nous sommes plutôt des gens qui vivons sur le littoral, il n'y a pas beaucoup de montagnes par ici, sinon quelques rochers. Mais pour ceux qui habitent dans des lieux de montagne, eh bien, nécessité d'effort, nécessité de volonté et nécessité de temps pour aller jusqu'au sommet. Eh oui, il y a des gens qui font des prouesses, hein, peut-être conquête de l'inutile, lorsqu'ils sont là sur les sommets des plus hautes montagnes de la Terre, avec le risque finalement d'y laisser leur vie, ça c'est clair. Mais toujours est-il qu'il y a nécessairement quelque part, eh bien, un effort. Vous savez, quand on voit ces gens qui grimpent comme ça, hein, ces alpinistes, eh bien, moi je me dis, c'est quelque chose. Hein, moi je reste en bas, hein, parce que je peux pas. Hein, mais c'est vrai, à force des bras, et puis tirant sur les cordes, et puis tenant l'équilibre, etc., etc. Et ils savent que de toute façon, ils vont pas décrocher parce que il faut aller jusqu'au bout. Le but, c'est d'aller jusqu'en haut. Et puis c'est une question de temps. Hein, on va pas faire une ascension au Mont Blanc ou je ne sais sur quel, hein, les Drues ou les Grandes Jorasses, en disant je pars ce matin, je reviens dans une demi-heure, hein, pas question. Hein. Ou alors faut prendre l'hélicoptère. Mais là il y a aucun mérite. Hein. Mais ils savent qu'il y a le temps, avec toutes les circonstances aléatoires et imprévues qui peuvent être là. Donc monter sur la montagne, parce que c'est un prix qui coûte. Et si nous voulons vivre notre vie spirituelle, notre vie chrétienne, ça va nous coûter quelque chose. Ça va nous coûter, non pas comme nous le pensons humainement parlant, mais c'est une histoire de volonté et de détermination, de nous laisser conduire et diriger par le Seigneur. Et quelquefois, il a fort à faire avec des chrétiens qui gesticulent dans tous les sens. Je veux pas monter, et j'ai peur, et je sais ceci, etc. Parce que le but, c'est pour prier, écoutez bien. Il prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et il monta sur la montagne. Pourquoi faire ? Pour prier. C'est là-haut. On peut prier en bas, mais on peut prier aussi là-haut. C'est symbolique. Hein. Là où l'on rencontre Dieu. Ouais. C'est entre midi et 2h, hein, enfin 2h30, il va y avoir un jeûne et prière. Alors, ne soyez pas culpabilisés parce que chacun qui décide. Moi, je suis pas là pour... En plus, je me suis trompé de date parce que j'avais pas pensé que c'était le jour de la Pentecôte. Hein? Mais néanmoins, peu importe. Une chose qui est certaine, c'est que c'est important de prier. Mais on n'attend pas les réunions de jeûne et prière le dimanche après-midi, quelquefois, une fois par mois. Je pense que nos temps de prière, c'est tous les jours. Vous entendez bien? C'est tous les jours. Et si nous ne nous disciplinons pas, si nous ne prenons pas le temps ou si nous nous laissons envahir par toutes sortes de choses, nous prierons jamais. Vous allez me dire, c'est plus facile à prier en couple à deux, parce qu'on est deux. Et on s'encourage l'un et l'autre. Je comprends que quand on est tout seul, c'est pas simple. Plus difficile. Mais néanmoins, la respiration d'un chrétien, c'est la prière. C'est la prière. Et moi, je vous exhorte. Alors, cet après-midi, vous ferez ce que vous voudrez. Vous avez peut-être des obligations et je peux tout à fait les comprendre. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il faut donner toujours une priorité à la prière dans notre vie. Ils sont montés sur la montagne pour prier, pas pour faire du tourisme naturellement. Et là, ils ont vécu une expérience seul à seul avec Jésus. Ils étaient 4. Non. Ils étaient 6. Non. Ils étaient 4. comprenez. Et ils ont gravi, avec la grâce que Dieu leur a donnée, ils ont gravi la montagne. Parce que de la prière découle la lutte. Après avoir gravi, ils sont rentrés dans une lutte. Mais quelle est la nature de cette lutte? Ça, c'est la deuxième étape. Première étape, gravir. Deuxième étape, lutter. Le verset 32 nous dit ceci. Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Ah, lutter. Vous avez remarqué, il nous est simplement précisé qu'ils ont été accablés de sommeil. Ben bien sûr, quand on a lutté pendant des heures pour monter, on est fatigué. On est épuisé, on est arrivé au sommet, et puis on se dit, oh là là, un peu de repos. D'ailleurs, en principe, les alpinistes, quand ils arrivent là-bas, ils s'assoient. Hein, ils sont, voilà, et ils contemplent le ravissement de la beauté de la création de Dieu, les submergent à ce moment-là. Bon, ils oublient leur fatigue, mais quand même, ils sont fatigués. Ils ont été accablés de sommeil. C'est une heure cruciale. Une heure cruciale, oui. Qu'est-ce que l'on fait? On dort là-haut ou on reste comme ça ou on fait rien ou... Mais c'est exactement ce qui s'est passé à Gethsémané dans d'autres circonstances. Gethsémané, c'était la perspective de la mort qui approchait. Ici, c'est la perspective de la gloire. Et moi, je voudrais avoir une version positive ce matin, non pas de la mort, mais de la gloire. De la révélation de Dieu. De la présence de l'Esprit de Dieu dans nos églises et dans nos vies. Oui. Parce que dans les deux cas, les disciples se sont endormis ou ont été tentés de dormir. Franchement, devant la mort, ils se sont complètement assoupis. Mais là, ils se sont tenus quand même un peu en éveil. Parce qu'ils devaient lutter contre des terribles ennemis qui sont les nôtres. Hein. C'est-à-dire, tout simplement, l'inertie de la chair. Quand on est fatigué, eh ben, on s'endort. L'inertie de la chair, ça c'est naturel, ça nous emmène, ça nous accable. Dans notre combat spirituel, dans notre ascension spirituelle, vous savez, c'est pas comme faire autre chose. C'est épuisant la lutte spirituelle. C'est un combat. Et il y a la chair qui est aussi autour de nous en disant, tiens, ce matin je vais prier. Puis à un moment donné, vous avez mille et une choses qui vous reviennent à l'idée de faire avant de prier. Ou quelquefois, eh bien, ça nous arrive aussi à nous, avoir tellement envie de dormir, parce que j'ai décidé de prier ce matin. Et d'avoir toutes sortes de choses qui nous arrivent. Ça, c'est les inerties de la chair, c'est l'ego. Ce sont les faiblesses et les défaillances naturelles. Mais le Seigneur le sait, il nous a pas pris parce que nous étions des anges, mais il nous a pris pour que nous étions des hommes et que nous le servions. Non pas avec nos forces personnelles, mais avec ses forces à lui. On va y arriver là, bientôt, à cette visitation du Saint-Esprit. On y arrive. Et sur la montagne. Et sur la montagne, Jésus intercède pour ses disciples. Et il intercède avec ses disciples. Et je voudrais vous dire qu'il y a des paroles qui sont écrites en lettres de feu dans le livre des Romains au chapitre 8, qu'il intercède pour nous. Même chose, lorsqu'il dit à ses disciples, après la multiplication des saints, des pains, et à un moment donné, il dit à ses disciples, allez, montez dans la barque, et puis je vous rejoindrai plus tard. Vous savez, il nous a dit que Jésus était en train de prier sur la montagne, et il priait en vue de l'ouragan qui allait venir, du tourbillon des épreuves, qui allait menacer la vie des disciples lorsqu'ils seraient au milieu du lac, en pleine tempête. Mais le Seigneur connaît les tempêtes qui vont nous arriver, hein, non? Il les connaît avant, et il prie déjà, hein. Il le sait déjà tout ça. Mais si parfois nous ne savons pas toujours ce qu'il convient de demander dans nos prières, parce que quelquefois nous sommes tellement épuisés, parce que nous avons gravi, parce que nous avons lutté, parce que nous avons toutes sortes de choses. Écoutez, laissez-moi vous rappeler, et en ce jour qui est quand même le jour de la Pentecôte, quand même de dire, et ça nous sommes interpellés, non seulement pour être baptisés du Saint-Esprit pour eux, ceux qui ne le sont pas, mais d'être renouvelés du Saint-Esprit pour ceux qui sommes baptisés du Saint-Esprit. L'Esprit nous aide dans nos faiblesses. C'est bien l'histoire que nous sommes en train de raconter. Ils se sont assoupis. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Quelquefois, nous sommes balbutiants. Nous disons, mais Seigneur, qu'est-ce que je pourrais dire? Je suis tellement peu de choses. Je suis tellement fatigué. Eh bien, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et vous savez, quand on est baptisé du Saint-Esprit, l'inspiration, c'est pas la nôtre, c'est celle de l'Esprit dans nos cœurs. Et là, à ce moment-là, nous pouvons nous en ouvrir à Dieu, qui va déposer sur nos cœurs des fardeaux et à travers un langage que nous ne pourrions pas nous-mêmes identifier, connaître, mais il nous est dit par des soupirs inexprimables. La prière, c'est aussi des soupirs inexprimables. Et l'Esprit sait, puisque celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède, finalement pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est peut-être un langage étrange ce que je suis en train de vous dire, mais c'est quand même une réalité évangélique, réalité de la Pentecôte, réalité de ce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous conduit, qui nous motive à prier et qui nous inspire. Et si nous ne pouvons pas décoder ce que nous disons, parce que celui qui parle en langue ne sait pas ce qu'il dit, en tous les cas, dans les lieux célestes, Dieu, le Fils, les anges savent ce qu'il en est exactement. Voici la troisième étape, gravir, lutter, parce que pour nous rappeler que toute lutte victorieuse, où je ne m'effondre pas, où je ne m'assoupis pas, où là, eh bien, je ne baisse pas les bras, c'est une lutte victorieuse, même si on n'a pas la sensation d'être victorieux. Hein. Mais toute lutte victorieuse nous ouvre à la contemplation. Alors, je m'expliquerai sur le mot à la fin. Sur la contemplation du monde invisible et glorieux. Nous sommes des hommes et nous devons avoir les pieds par terre. Nous ne sommes pas des zombies, nous ne sommes pas des éthérés, mais nous devons tenir compte qu'il y a une autre dimension à laquelle nous sommes conviés, appelés et dans laquelle nous vivons. Nous sommes appelés à vivre en tous les cas. Et c'est ce qui va nous être révélé à travers cette transfiguration. Nous ouvre sur la contemplation d'un monde, je le répète, invisible et glorieux. Gravir, lutter, c'est prier, et ensuite admirer. Vous savez que nos églises, elles devraient éclater d'adoration le dimanche matin et tous les jours. De commencer nos prières quotidiennes en remerciant le Seigneur et non pas tout de suite arriver, je te demande, je te demande, je te demande, je te demande. Seigneur, je veux me souvenir que je t'ai demandé et que tu m'as béni. Je veux me souvenir que je t'ai sollicité et que tu as fait ceci, cela, cela. Il y a un vieux cantique qui dit, mais compte les bienfaits de Dieu. Mets-les devant tes yeux et tu verras combien le nombre en est grand. Et à ce moment-là, tu pourras adorer. Il y a une carence profonde d'adoration dans nos églises. Et pourtant, nous sommes des églises de Pentecôte. Des églises charismatiques. Ouais. Admirez. Verset 32, verset, là. Donc Pierre et ses compagnons étaient appesantis, nous l'avons dit, et ils se sont tenus, et ils virent à ce moment-là, ils virent la gloire de Jésus et des deux hommes qui étaient avec lui. Ils virent la gloire de Jésus. Nous voulons voir Jésus s'élever, comme le dit aussi un autre chant. Révélation qui a tellement marqué l'apôtre Pierre, parce qu'il était là, hein. Qui plus tard écrira ces paroles que je trouve extraordinaires. Plus tard, vous savez, c'est ce que nous avons lu. Hein. À un moment donné, il nous est dit que les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là. Mais plus tard, Pierre en a parlé. Plus tard, Pierre l'a écrit dans son épître où il est dit ces mots. Tout simplement, et je voudrais vous les rappeler parce que ce sont quand même assez évidents, verset 16, il dira, il écrira, après son expérience, mais très tardivement. Ce n'est pas en effet, c'est 2 Pierre, chapitre 1er, verset 16, ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c'est comme l'ayant vu ou ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Il fait référence à quoi? Il fait référence à cette expérience à ce moment-là. Et il dira, ce sont pas des fables, ce sont pas des histoires que je suis en train de vous raconter, ce sont pas des fadaises, ce sont pas l'imagination débridée d'un homme, mais c'est parce que nous l'avons vu nous-mêmes. Mais comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux, car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une parole qui disait, une voix qui lui disait, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. et nous tenons pour autant plus prophétique la parole, tout simplement. Vous savez, il faut faire attention, frères et sœurs. Le mysticisme est un grand danger pour l'Église. Et il y a parfois des mystiques dans les églises évangéliques, puis alors des bons, enfin des bons, des mauvais. Mais ils partent, ils sont plus là, avec des révélations, avec toutes sortes de choses. Moi, au cours de mon histoire de ministère, quelquefois, on m'a donné des bouquins à lire. Mais je peux vous dire qu'il faut accrocher la ceinture. Des gens sous l'effet d'esprit de mensonge témoignent qu'ils ont vu Jésus, qu'ils sont allés au ciel. Et ils décrivent le ciel d'une manière, comme s'ils le feraient, par exemple, de décrire une ville ou des choses comme ça. Mais ça ne nous est pas révélé dans la Bible, ça. Ça ne nous est pas dit. Peut-être avez-vous été confronté avec ce genre de lecture évangélique qui n'a rien d'évangélique et qui n'a rien de biblique, en tous les cas. Mais c'est tout simplement des esprits qui déraillent. Je suis très sévère par rapport à ça. Parce que retenons que ce qui nous a été dit, et n'extrapolons pas pour imaginer ce que pourrait être le ciel, ce que pourrait être la gloire, ce que pourrait être ceci et cela. Et malheureusement, j'ai vu quelquefois des chrétiens de longue date tomber dans ce genre de pièces et se nourrir de cette illusion et de ce genre de rêverie, finalement, qui n'ont rien à voir avec ça. Mais Pierre dit, quand il parle de cette révélation qu'il a eue, qui était déjà très lointainement enfoui dans sa vie, il dira, mais ce ne sont pas avec des fables que nous vous expliquons les choses, c'est parce que nous l'avons vu, nous avons connu cette gloire, et il n'en a pas parlé tout de suite. Et on verra que quelquefois il y a un danger, lorsque nous vivons des expériences transcendantes, des expériences qui nous marquent profondément, de vouloir tout de suite courir pour le dire aux autres. Peut-être par orgueil spirituel de dire, moi j'ai des révélations, mais toi t'as rien du tout. C'est terrible. Moi je dis que tout ça c'est le diable. Paul aussi fera cette découverte à un moment donné, mais avec quelle circonspection il en parlera. Dans 2 Corinthiens, par exemple, au chapitre 12, et il dira ces choses, « S'il faut se glorifier, » parce qu'il a eu des révélations, « ce n'est pas bon, j'en viendrai néanmoins à des visions et des révélations du Seigneur. Je connais un homme, il parle de lui en Christ, qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. » Et puis alors vous lirez la suite, vous verrez un petit peu comment il dit. Mais après il dira, mais Dieu m'a mis une écharde dans la chair pour que je ne m'enorgueillisse pas d'avoir vu et d'avoir connu cette dimension spirituelle. Et il a prié, il a supplié le Seigneur en disant, délivre-moi de tout cela. Le Seigneur a dit, ma grâce te suffit, c'est avec comme ça que tu vas marcher. Il n'y aura pas autre chose. Et comme nous l'avons chanté tout à l'heure, c'est Michel qui a fait chanter ce cantique, et c'est Paul qui confirmera à travers 2 Corinthiens chapitre 3, cette parole que vous avez exprimée à travers le chant, verset 17, 3 chapitre 17, où il est dit cette parole, « Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, c'est la liberté. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en sa même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. » Vous connaissez le cantique que vous avez chanté tout à l'heure? C'est ça exactement? Ouais, c'est ça. Il nous est dit qu'au verset 33, je reviens, au moment où ces deux hommes se séparaient de Jésus, Pierre dit, Maître, il est bon que nous soyons ici, dressons trois tentes, et une pour toi, une pour Moïse et une pour moi. Il ne savait pas ce qu'il disait. Ouais. Deux hommes vont venir s'ajouter. Ce ne sont pas des hommes qui sont montés de la vallée comme Pierre, Jean et Jacques, ce sont des hommes qui sont descendus du ciel. Donc au ciel, il a la vie. Et s'est enveloppé finalement, et bien là, dans une dimension invisible pour nous, mais visible pour les trois témoins qui étaient là. Pierre dit, dressons trois tentes. Et il ne savait pas ce qu'il disait. Pour nous montrer, pourquoi vouloir retenir sur la terre les habitants du ciel? Parce que, je voudrais quand même vous le dire, Moïse et Élie, ils sont au ciel, Pourquoi vouloir les retenir sur la terre quand finalement ce sont des habitants du ciel en leur offrant des tentes? Et la tente, il n'y a rien de plus précaire. Une maison, c'est solide, mais une tente, c'est rien du tout. Même l'apôtre Paul dira, mais notre corps, c'est une tente, c'est rien du tout. Alors qu'il y a, nous dit Jésus, plusieurs demeures dans la maison de mon Père et elles sont solides. Nous sommes appelés a quitté cette tente pour entrer dans des tabernacles éternels, des temples dans le ciel. Et Pierre ne savait pas ce qu'il disait, parce que tout ça, c'est un symbole d'éternité, ces maisons, ces demeures dans le ciel. Gravir, lutter, contempler, et écoutez, nous laisser envelopper maintenant. Chapitre, verset 34. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les couvrir, et les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuit, dans la nuée. C'est-à-dire se laisser couvrir ou se laisser recouvrir. Frères et sœurs, nous sommes appelés à être recouverts de la grâce, du salut en Jésus-Christ. Nous sommes appelés à être recouverts de l'Esprit de Dieu, du Saint-Esprit de Dieu. Notre vie peut-être est en train de piétiner. Nous sommes en train de patauger, je ne sais dans quelle ornière ou sillon. Notre vie, qu'elle soit notre vie spirituelle, qu'elle soit notre vie peut-être professionnelle, économique, sentimentale, qu'elle soit notre vie conjugale d'une manière ou d'une autre, nous pataugeons. Mais le Seigneur est venu nous appeler pour que nous puissions émerger de cela. Bartimée était assis au bord du chemin. Et quand il a recouvré la vue, eh bien, il nous est dit qu'il a marché dans le chemin. Et frères et sœurs, je voudrais vous le dire de tout mon cœur, que le Seigneur ne veut pas nous laisser sur le bord du chemin à végéter, il veut nous donner de marcher dans le chemin. Et en regardant Jésus, parce que Jésus marchait devant lui. Il y a tant de vies qui sont réduites à la médiocrité, qui sont réduites à l'asthénie. On n'en peut plus. On est fatigué. Mais il y en a un qui se joue de tout cela. Parce que tant qu'on sera fatigué, tant qu'on sera épuisé, ben on ne fera rien. Mais par contre, si nous sommes recouverts, si nous sommes revêtus de la puissance de l'Esprit, alors à ce moment-là, ça va tout changer. Moi, je le dis pour moi-même, j'en ai besoin, et nous le prions avec mon épouse. Seigneur, donne-nous davantage, donne-nous d'aller plus loin encore. Parce que si nous allons plus loin, eh bien, on vous emmènera plus loin aussi. Parce qu'un pasteur qui n'a plus rien à dire, qui n'a plus rien à faire, je peux vous dire que il faut qu'il prenne sa retraite. Moi, je vais à vous, ma retraite, mais je peux pas. Eh oui, et c'est pour tout le monde pareil. C'est pour tout le monde, les uns et les autres, enveloppés. Il nous est simplement rappelé, et moi j'aime bien ces mots, car comme il parlait à ce moment-là, une nuée vint les couvrir. Là où est l'Esprit de Dieu, là où l'Esprit de Dieu nous saisit totalement dans nos âmes, dans nos sentiments, dans nos émotions, dans notre raison et dans notre intelligence, correspond à une immersion, comme le baptême. Le baptême d'eau, immersion, engloutie. Mais on se relève toujours, parce qu'après, il y a toujours la forme d'une résurrection. Eh bien, c'est la même chose, expérience spirituelle. C'est une effusion du Saint-Esprit dont nous avons besoin les uns et les autres. Une effusion de l'Esprit. Ça s'appelle la Pentecôte. Ça s'appelle la visitation de Dieu. Souvenons-nous d'un fait extraordinaire, d'une visitation de l'Esprit. Quand il s'est agi de l'ange Gabriel, vous savez ce qu'il nous est dit exactement? C'est les mêmes textes, c'est le même mot. Hein, la couvrit de son ombre. Marie. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Parce qu'elle a été couverte de l'ombre de l'Esprit de Dieu. Eh bien, il s'est passé un miracle de vie. Le petit enfant, Jésus, est né. Enfin, il est né, il a été conçu, plutôt. Et il y a eu un enfantement spirituel. Eh bien, nous, lorsque nous sommes baptisés du Saint-Esprit, lorsque nous vivons dans la vie de l'Esprit, nous vivons comme un enfantement. La nouvelle naissance, qu'est-ce que c'est? C'est pas autre chose qu'une vie nouvelle. Et c'est par l'Esprit. C'est pas la chair, comme dira Jésus dans le prélude de l'évangile de Jean. C'est une nouvelle création. Et c'est là où se rejoint la haute montagne de la Transfiguration et la chambre haute à Jérusalem. La chambre haute. Chapitre 2. Livre des Actes des Apôtres. Seigneur, visite-nous. Remplis-nous de ton esprit, s'il te plaît. Quand Salomon a fini le temple de Jérusalem, il nous est donné par deux fois dans le livre des Rois et dans le livre des Chroniques cette parole. En ce moment-là, quand la maison a été dédicacée. À ce moment-là, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Et la gloire de l'Éternel a rempli la maison de Dieu. À tel point que les sacrificateurs qui devaient faire le service ont été obligés de sortir tellement c'était d'une densité et d'une force, d'une puissance. Mais c'est bien l'image, finalement, de ces sacrificateurs qui sont l'image de cette humanité, avec sa corruption et son péché, qui sont obligés de s'écarter pour laisser l'Esprit de Dieu qui, lui, purifie, sanctifie et nettoie tout. Hein. Il nettoie tout. Ça, c'est la quatrième étape. La cinquième étape, on l'a vu, gravir, lutter, que je retrouve tout le cheminement, contempler, se laisser envelopper et écouter Dieu maintenant. Écouter Dieu parler, son message, le verset 35 et 36. Et de la nuée sortit une voix qui dit « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Quand la voix se fit entendre, les disciples, ils ont entendu naturellement tout ça. Jésus se trouva seul, et ils gardèrent le silence et ne racontèrent à personne. Cette cinquième étape, lorsque nous vivons ce genre de choses extraordinaires, c'est de se taire. Ils ne dirent rien. Plus la bénédiction, plus la révélation et autres expériences, plus ils sont grandes, plus elles sont magnifiques, comme dira l'apôtre Paul avec des mots ineffables, plus il convient de n'en parler qu'avec réserve. Vous comprenez ce que ça veut dire? Quand Jésus faisait des miracles, même les miracles les plus inouïs, il disait à tous ceux qui étaient autour de lui, ne le dites à personne. On en est loin, on est loin du compte. Parce qu'on a développé peut-être dans nos églises évangéliques de dire, eh bien, vous avez fait des expériences, ceci et cela, etc. Alors dites-le au monde entier. Mais attention de ne pas le livrer au pourceau. Parce que Jésus nous reprend. C'est Jésus qui le fait, hein. Ne livrez pas vos perles au pourceau de peur qu'il ne se retourne et qu'il finalement finisse par discréditer le beau témoignage, parce que votre témoignage, il est beau. Mais entre les mains des pourceaux, c'est le terme que Jésus en prend. Ça peut être quelque chose de très dangereux et un discrédit même pour le témoignage et pour l'Église. J'en viens à quelque chose qui doit nous interpeller, mais j'ai déjà fait allusion dans le cours de ce message il y a un instant, c'est ce que j'appellerais les tapageurs du pseudo-évangile. Et aujourd'hui, on a les moyens, hein, avec Internet, avec les flyers, et puis tout ce que l'on veut, toute la publicité. Ouais, les tapageurs du pseudo-évangile qui disent et qui écrivent n'importe quoi et qui contredisent le message évangélique. Alors, on est bien placé pour savoir de quoi nous parlons, mais où l'on prend les méthodes marketing du monde, etc., etc. Mais l'évangile, c'est pas le monde. Et moi, je crois que peut-être c'est parce que l'esprit ne fait plus son travail, ou que nous ne laissons plus l'esprit faire son travail pour le témoignage et dans le témoignage. Alors, on cherche toutes sortes de méthodes. On marche dans l'empreinte des pas des hommes du monde. Et quelque part, vous savez, non seulement ça choque les consciences de véritables chrétiens, mais d'un autre côté, ça ne rapporte rien. Ça ne rapporte rien. Des gens qui partent avec leur rêverie, qui partent avec leur délire. Ouais. Je me suis toujours opposé à cela depuis que je suis dans le ministère. Parce que je dis qu'il faut être conduit par l'esprit, et non pas avec des recettes, avec des méthodes, avec toutes sortes de choses. Enfin, tant que je serai là, en tous les cas, j'essaierai de tenir la barre. Hein. Puis si vous voyez un peu déphasé, vous me dites maintenant il est temps de partir à la retraite. Hein. Non, mais je plaisante pas. Hein. Parce qu'on voit tout et n'importe quoi aujourd'hui. Et avec les moyens modernes que nous avons, faut faire attention. Et si nous devons nous placer pour faire connaître l'évangile, mais un évangile qui soit véritablement quelque chose qui amène la vie, qui amène la foi, et non pas des émotions, non pas des toutes sortes d'élucubrations, mais vraiment quelque chose de profondeur. Maintenant, la dernière étape, nous y arrivons, verset 37. Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul, les disciples gardèrent le silence et ils ne racontèrent rien à personne en ce temps-là ce qu'ils avaient vu. Le lendemain, Et là, c'est intéressant. C'était intéressant partout. Lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au devant de Jésus, et voici au milieu de la foule un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte les regards sur mon fils, car c'est mon unique fils. » Un esprit le saisit, et aussitôt, il pousse des cris, l'esprit l'agite avec violence, le fait écumer, et il a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. La montagne et la vallée. Et là, c'est pratique. Jésus a emmené ses disciples dans la montagne, très haut dans la montagne. Et ensuite, il les a fait redescendre dans la vallée. Et je vais vous expliquer. Il y a des jours enchanteurs et enchantés dans nos expériences spirituelles avec le Seigneur. Personnellement, j'en ai vécu rarement, mais j'en ai vécu. Où je pourrais dire, comme Paul, moindre que Paul, mais que l'Esprit de Dieu m'a transporté et m'a amené sur la haute montagne avec une joie, avec une paix, avec une vision tout à fait particulière et heureuse. Ça remonte à 40 ans en arrière, ça. Fallait-il que le vivre pour suivre le chemin qui était le mien pendant 40 ans dans le ministère? Et ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Et je ne vous l'ai pas raconté, je ne vous le raconterai pas. Ou très peu. Parce que c'est pas la peine, c'est Dieu qui doit être glorifié dans cette affaire, c'est pas le bonhomme. Quand je dis le bonhomme, c'est moi. Hein. Et en plus, je dis bon, je suis content de moi quand même. Ouais. Mais soyons clairs, il y a parfois dans nos vies des visitations extraordinaires de la vie de l'esprit, où nous tressaillons, nous sommes transportés. C'est bien. Merci Seigneur pour ces jours enchantés ou enchanteurs. Mais il y a parfois des lendemains désenchantés. C'est quand Jésus va leur dire, maintenant on redescend. Et il y avait une raison pour qu'ils redescendent, parce qu'on ne peut pas vivre continuellement et totalement dans le ciel. Hein. C'est pas encore maintenant, hein. Le départ n'est pas encore prêt. Non. De la montagne, l'altitude spirituelle où nous vivons des choses extraordinaires, à la redescente, dans cette vallée, il nous est dit le lendemain, lorsqu'ils furent redescendus. Mes frères et sœurs, n'allons pas nous mettre en tête que nos plus belles expériences spirituelles, elles vont durer des jours, des mois, des années, jusqu'à la fin de notre vie. Non, 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 non. Notre mission, elle n'est pas là-haut, pour l'instant, elle est en bas. Et là, quelquefois, la descente, elle est dure. Hein. Elle donne un petit peu le tournis. Hein. Parce que Dieu veut toujours nous ramener à redescendre dans les contingences de l'existence. Et quand ils vont arriver, les trois, plus Jésus, ils vont voir les neuf qui étaient restés, plus une grande foule, ils vont se retrouver devant un drame humain. Ils ont été confrontés non plus au ciel mais à la terre, contingences de l'existence, les détresses et les malheurs du monde qui reprennent leur cours et leurs droits. Un père va venir solliciter Jésus en disant « Voilà, je vis un drame, mon enfant, mon unique enfant, il est malade, il est tourmenté et il est détruit par des esprits méchants et mauvais. Le monde gît dans le malin, vous connaissez ? Ouais ? Eh ben ça, c'est les réalités de la terre aujourd'hui. Qu'on se bouche les oreilles et les yeux, mais c'est quand même une réalité de la terre. On peut vous dire, il y a plus de malheur sur la terre que de bonheur. Hein. Il y a plus de gens qui pleurent que des gens qui rient. Ou que des gens, finalement, eh bien, qui... Ou alors, il peut y avoir les deux, mais c'est jamais ni blanc ni noir, c'est toujours en gris, hein, de toute façon. Détresse et malheur du monde qui reprennent leur cours et leurs droits. C'est en bas que se situe, mes frères et sœurs, notre appel et notre service. C'est pas de partir en disant, moi je suis un prophète, je suis ceci et cela, je suis déjà dans le ciel. Non, 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 non. Ça va pas, hein. Parce que Dieu a des anges pour ça, pour le ciel. Mais il veut des hommes sur la terre, qui compatissent avec les souffrances, qui puissent apporter le témoignage de Jésus, de la mort de Jésus, du sacrifice de Jésus, le prix que Jésus a payé pour leur dire, mais écoutez, regardez, Jésus a triomphé de la mort, et à travers la mort, vous pouvez vous être guéri, délivré. C'est ça, hein. Il prit avec lui, il monta sur la montagne, première proposition. Lorsqu'il fut redescendu de la montagne, alors là, à ce moment-là, ils ont vu quelque chose qui était la réalité, parce que c'était à cela qu'ils avaient été appelés. Et moi, je dis l'Église de Jésus-Christ et chacun d'entre nous, c'est à cette mission-là que nous sommes appelés, redescendre et travailler dans la vallée. Non, non, on n'est pas des vapeurs, hein. Même s'il y avait une nuée. On en sort de la nuée à un moment donné. Faut être pratique. Et je pense que je le suis, hein. Je laisse pas les gens gamberger dans toutes sortes de choses. Ouais. Monter, c'est excellent. Mais descendre, c'est nécessaire. Pour ne pas sombrer dans les délires mystiques. C'est pour ça que Jésus a dit maintenant, redescends, hein. C'est terminé. Et face aux réalités visibles d'une humanité dominée par le mal, ou assujettie par le mal, c'est l'histoire de ce pauvre père qui vient par rapport à son fils, qui va donner un cri de désespoir. Au verset 38, il est dit, mais mon fils, il est saisi d'un esprit, il pousse des cris. L'esprit l'agite avec violence, il fait écumer, il ne peut se retirer de lui après l'avoir tout brisé. Et puis il dit, mais j'ai prié tes disciples, dira le père, de le chasser, mais ils n'ont pas pu. Ah ouais. Si nous essayons de bricoler les choses humainement parlant, ça ne marchera jamais. Parce que moi, je crois qu'il y a quelquefois des guérisons qui ne sont pas des guérisons de l'esprit, psychologique peut-être. Mais le but, c'est pas de guérir les gens. Le but, c'est qu'ils soient sauvés. Et si ça va par une guérison, bien. Mais le but, faut pas retenir uniquement la guérison, uniquement le miracle, uniquement le prodige, uniquement le haut fait de Dieu. Si ça ne mène pas au salut des âmes, ça ne sert à rien, mes frères et sœurs. Je suis remonté, hein. Bah, je suis un peu plus haut que vous, hein. Non, mais un peu plus haut sur l'estrade, hein, c'est sûr. Ils n'ont pas pu. Incapacité des disciples. Et puis, il y a cette dernière phrase qui est extraordinaire. Et ils furent tous frappés de la grandeur de Dieu. Et moi, ce que je voulais vous dire ce matin, c'est que dans ce texte, qui est développé dans un autre évangile, dans ce texte, il est question de la grandeur de Dieu dans le ciel, et il est question de la grandeur de Dieu sur la terre. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, et que véritablement il nous donne de comprendre, non pas seulement avec les quelques mots que j'ai multipliés devant vous, mais qu'il nous donne de comprendre cela par l'enseignement que nous donne le Saint-Esprit en chacun d'entre nous. Que Dieu nous bénisse. Et on va prier quelques instants, si vous voulez bien. Seigneur, je te rends grâce et je te remercie parce qu'il y a des hautes montagnes. Il y a en effet, Seigneur, des expériences qui sont formidables, qui sont extraordinaires. Et nous, si nous voulons les expliquer, nous pouvons dire, eh bien tout simplement, comme à l'instar de Pierre, il ne savait pas ce qu'il disait. Seigneur, nous ne sommes rien. Mais toi, Seigneur, tu es la grandeur dans le ciel et tu es la grandeur sur la terre. Et nous croyons, Père éternel, que lorsque tu entraînes ton Église, c'est pour qu'elle puisse avoir une vision du ciel, une espérance, un espoir extraordinaire, merveilleux du ciel. Et pourtant, Père éternel, tant que nous serons dans cette tente, tant que nous serons dans un corps humain, eh bien tu nous fais toujours redescendre dans la vallée pour que nous n'oublions jamais, au grand jamais, qu'en effet, Seigneur, les réalités de ce à quoi tu nous as appelés, c'est te servir, c'est de...
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.